Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Rêve d'été. Production. Mise en scène. Julien Jean-Pierre. Enregistrement. CVRP. Demander de l'aide à sa famille, car il sait que s'il le fait, cela risquerait d'être encore plus dur pour lui. Celui qui le fait et fera subir ses épreuves, il le sent près, tout près de lui. Il a l'impression qu'il est constamment près de lui et qu'il sait ce qu'il fait, ce qu'il pense. C'est comme s'il avait rencontré le diable et que le diable ne voulait pas le lâcher. Lorsqu'il se lève le lendemain matin, il sait que commence pour lui une vie où il doit se tenir sur ses gardes et cacher sa peur aux autres. Oui, quelque chose chez lui dit que cette lutte entre lui et l'autre doit rester secrète. sort de sa chambre. En longeant le couloir pour aller à la salle à manger, il entend une voix qui vient de chez où. Alors, tu me crois? Il se sauve en courant. Son frère et sa mère y allaient dans sa chambre. Sa mère, toujours attristée du départ de son mari, ne s'en aperçoit pas. Lui, son frère, s'inquiète. Après le repas, où il n'a presque rien mangé, ils sont allés s'asseoir sur la terrasse. Son frère lui demande : Ça ne va pas ? Tu n'es pas content d'être ici ? Si, ça va. Pourquoi ne veux-tu pas te promener ou essayer de faire des connaissances? Je n'en ai pas envie. Durant la nuit, il est réveillé par de grands coups secs. Dans le demi-sommeil, il voit que c'est un oiseau qui se cogne inlassablement à la vitre de la porte-fenêtre. Cette bête cogne son bec et ses ailes. Il ne peut pas franchir le passage invisible. Elle colle le bec bat des ailes contre la vitre et pousse des cris. Il n'avait pas voulu que l'on ferme la porte de la fenêtre de la porte du noir. Le spectacle de cet oiseau dans la lumière de la lune est funèbre. Il ne peut supporter. Il va tout faire pour arrêter. Il sort de son lit, tremblant, va vers la fenêtre et frappe sur la vitre pour le faire partir. Mais l'animal est tellement pris par cet obstacle invisible qu'il ne fait pas attention à lui. Alors, il ouvre la fenêtre. L'oiseau plonge sur lui. Il a tout juste le temps de baisser la tête que l'oiseau tombe sur le plancher, raide mort. Alexandre se penche vers l'animal. Il a les ailes écartées, la tête sur le côté ensanglantée. Cela lui donne la nausée. Il voit tout tourner autour de lui. Il trouble. Une voix lui dit « C'est encore moi. Je serai toujours là. La prochaine fois, c'est toi qui tomberas. La mort plane sur toi. Je suis le prince des ténèbres. » Alexandre perd connaissance. Lorsqu'il reprend ses esprits, la chambre baigne de soleil. Il est tout courbaturé, un peu froid, allongé sur le sol, voit la porte-fenêtre ouverte, les rideaux qui bougent. Reprend ses esprits, se soulève. L'oiseau mort a disparu, mais une petite tache rouge sur le parquet lui dit qu'il n'a pas rêvé. Qu'il est prisonnier, ou plutôt tyrannisé par un être diabolique et invisible. Il se sent là, très là, se soulève en titubant pour se sortir de la chambre en chemise de nuit. D'une façon automatique, il se dirige vers la salle à manger, sans avoir la moindre idée de l'or. Descend les marches, et là, un souffle près de lui. Il tombe. Connaissance. escalier en pierre, ses sombres sols, une lumière, une grande clarté qui vient de la fenêtre. Il monte, monte, et tout en montant, il sent comme une immense angoisse. Arrivé en haut, il s'approche de la fenêtre, il s'y approche tout près, trop près, fonce sur lui, employant ses ailes. Oiseau, un immense oiseau. L'animal, voyant ses ailes, réussit à le faire tomber, puis s'envole. Se relève, son corps bat très fort, mais il sent tous ses membres se raidir. Il est comme paralysé. La nuit autour de lui, il lui semble rester un long moment comme cela, un très long moment. Puis une immense chaleur l'envahit, un bien-être infini. Il semble bouillonner, exploser. Et le noir. Lorsqu'il se réveille, il ne reconnaît pas sa chambre qui baigne de soleil. Il sait qu'il est dans son lit. Il n'ose pas bouger. Il a entendu tousser, se tourne et voit assis sur une chaise sa mère qui lit. Il se dit: elle est belle, ma mère. Lève les yeux, elle le voit, sourit.
Tu es enfin réveillé. Comment te sens-tu ?
Il sourit. Maman, tu es belle. Elle sourit et se penche pour l'embrasser.
Merci, mon chéri. Tu ne sembles plus avoir de fièvre. Tu nous as fait peur, tu sais. Cette fièvre qui ne descendait pas. Et le médecin qui ne comprenait pas pourquoi tu avais eu de la fièvre.
Je peux me lever ?
Je ne sais pas.
Mais je me sens parfaitement bien.
Bon, mais avant tu vas manger quelque chose et tu ne sortiras pas de ta chambre. Si tu veux prendre l'air, tu iras t'asseoir au balcon.
Il soupire. Car il sait, il sent son corps plein d'énergie. Une énergie comme il n'en a jamais eue. Appuie sur la sonnette, l'on frappe à la porte.
Entrez.
C'est la femme de chambre.
Amenez du potager et une pêche
pour le petit déjeuner de ce jeune homme.
Bien, madame.
Une fois que la femme de chambre est partie,
« Mais pourquoi du potage? Pourquoi toujours du potage?
Parce que c'est nourrissant et sain. »
Après qu'il eut pris son petit déjeuner, fait sa toilette, il a voulu s'asseoir devant la porte-fenêtre. Sa mère est venue prévenir son frère qu'il était guéri. Son corps, son cerveau est tellement plein de vie qu'il refuse la peur, veut tout oublier pour pouvoir vivre. Sa mère, son frère, passe la journée auprès de lui. Dans l'après-midi, il s'assoupit. Réveillé par le chuchotement d'une conversation que sa mère a avec son frère.
Si, je t'assure, ce ne sont pas des idées que je me fais. On l'a vu dans un salon de thé avec elle. Il paraît qu'elle est beaucoup plus jeune que lui.
Vous savez parfaitement bien, mère, que les gens disent n'importe quoi pour voir souffrir les autres. Et puis, je ne veux pas du tout peur avoir des aventures.
Peut-être bien, mais les indices que j'ai trouvés disent le contraire et l'accablent.
Un mouchoir et la facture d'un bijoutier, ça ne veut rien dire.
Pour toi, oui, ça ne veut rien dire. Mais pour moi, cela veut tout dire.
Elle soupire. Ne souffrez pas pour ça. C'est si peu, mère.
Oui, tu as peut-être raison. Et puis, il me reste toi. Et le petit.
Alexandre se rendort. Le lendemain, il se sent tout à fait mieux et demande à sa mère de pouvoir sortir.
Oui, je le veux bien, mais ne t'éloigne pas trop de nous. Surtout pas.
Promener un peu aux alentours de l'hôtel, puis passe la journée allongé sur une chaise longue à côté de sa mère et de son frère. Il se sent tout à fait bien. et à oublier ses peines. Dans l'après-midi, on apporte une lettre au frère qui la lit. Mère, c'est Marie. Elle m'annonce sa venue. Elle arrive. Attendez. Mardi, c'est-à-dire dans 2 jours. Marie Lemaire est la fiancée de Ferdinand. Ferdinand et sa mère ont prévenu l'hôtel qu'elle arrivait et fait préparer une chambre. Après-midi, alors qu'ils sont assis sur la terrasse, ils la voient qui sort d'un taxi. C'est une grande jeune fille de 20 ans, belle, blonde, les traits du visage très fins. Elle porte un ensemble beige. Il se lève pour aller l'accueillir. Il semble très heureux de la voir et ébloui par sa beauté et douceur. Qu'elle est installée, reposée et pris un goûter avec la famille, Ferdinand lui a proposé d'aller faire une petite promenade avec lui. Alexandre les voit de la terrasse s'éloigner tous deux dans un bain de lumière. Elle a mis une robe blanche et semble aérienne. Lui, son frère, dans son costume marine, et ses gestes raides font un contraste étrange. En le voyant s'éloigner avec elle, Alexandre sent de la gêne pour lui. Une grande tristesse l'envahit, car quelque chose lui dit qu'elle ne peut pas être à lui. Parce qu'elle fait partie d'un autre monde, un monde léger, léger. Alexandre les voit revenir pour le dîner.
Dobrze, od jutro będę mniej biegał.
Pamiętaj, kochanie, dotrzymaj obietnicy.
Tak. Basiu, skarbie, jutro ranek spędzimy razem. Cieszysz się? Nie zmieniaj.
Durant le repas, Alexandre ne fait pas attention à la conversation. Il est trop émerveillé par la jeune fille et la dévore du regard. Par contre, son frère semble nerveux, anxieux. Sa mère, elle, est heureuse que la jeune fille soit là. Après le repas, Marie demande la permission de se reposer. Elle est fatiguée.
Désolée de ne pouvoir rester jusqu'à la fin. Vous nous quittez déjà, quel dommage.
La famille va au salon écouter un peu de musique avant d'aller se coucher.
C'est tout à fait mon avis. Au revoir. Au revoir.
Alexandre ne pense qu'à Marie. Il est amoureux fou de la jeune fille et en a oublié ses cauchemars. Son frère, qui est à côté de lui, est excité. Il tapote l'accoudoir de son fauteuil. Soupire. Au bout d'un moment, n'en pouvant plus, il dit à Alexandre :
Tu es avec elle,
j'ai envie de marcher un peu.
Je ne savais pas.
Viens avec moi.
Oui, en effet.
Et ils sortent du salon.
Alors bonsoir. Ou bien alors, c'est la dernière fois que tu me vois, la dernière. Et je parle sérieusement.
Mon cher Tullio, tu ne vas pas laisser échapper notre plus ravissante invitée, j'espère.
Oh, mais cela ne dépend pas de moi, prince.
La nuit est douce et étoilée. Alexandre suit Edmond qui marche d'un bon pas, nerveux et raide. Tout semble tendu en lui. Il faut qu'ils se soient éloignés de l'hôtel, ils longent le lac. Le grand frère marche moins vite. Et sans regarder, Alexandre, comme en se parlant à lui-même, il commence un monologue. J'aime Marie de tout mon corps, mais en même temps, elle me fait peur. Je ne sais comment me comporter avec elle. Lorsque je suis près d'elle, je n'ai qu'un désir, la quitter. J'ai tellement honte. Je veux la fuir pour pouvoir l'aimer en paix. Et pourtant, lorsqu'elle est loin, je me souhaite que de la revoir. Avec mon comportement, j'ai peur de la perdre. Il se tait un moment. Alexandre n'ose rien dire et se sent gêné. C'est comme s'il avait entendu une conversation qu'il ne devrait pas entendre. Il aimerait rentrer. Il est fatigué et son frère continue à marcher sans faire attention à lui. Puis Edmond s'arrête et dit Je n'ai jamais connu de femme. C'est pour cela aussi que j'ai honte et que j'ai peur qu'elles s'en aperçoivent. À mon âge, ce n'est pas normal. Puis, il tourne la tête vers son frère et lui dit « Rentrons !» Et il s'en retourne. Petit déjeuner, il retrouve sa mère et Marie sur la terrasse. Il s'assoit à côté d'elle. Les deux femmes n'ont pas fait attention à lui et continuent leur conversation.
Alors, vous nous quittez, Marie?
Oui, ma famille m'attend. Je voudrais vous demander, madame, est-ce qu'Edmond est malade?
Mais non, pourquoi cette question?
Parce que je le trouve étrange. Il semble nerveux, anxieux.
La mère sourit et lui dit « Edmond a toujours été comme ça. C'est son tempérament. »
Oui, mais c'est vrai, vous avez raison, mais je l'ai toujours vu ainsi, moi aussi, mais je pensais que nous étions fiancés. Maintenant, il allait se détendre, être plus gai. Ses lettres sont tellement pleines de vitalité, de fougue même. Et lorsque l'on les voit, l'on est surpris. Vous êtes sûr qu'il tient toujours à moi?
La mère lui sourit, lui dit.
Mais oui, ma chérie, bien sûr.
Puis, elle l'embrasse sur le front. Elle voit son fils.
Oh, tu es là. Tu aurais pu nous le dire.
Elle l'embrasse. Il l'embrasse et embrasse Marie. La douceur de sa joue et son odeur l'a ému. Puis, il se retourne par timidité et voit la brume sur le lac que les rayons du soleil percent. Il se retourne et voit son frère. Il sort de l'hôtel et arrive vers eux, s'avance vers les deux dames. Bonjour mère, bonjour Marie. Il donne une tape sur l'épaule de son frère et s'arrête à s'asseoir à ses côtés. Sa mère lui dit,
Marie nous quitte.
Comment? Vous nous quittez, Marie?
Oui, je dois rejoindre ma famille.
Vous n'en aviez pas parlé hier au soir.
Je n'avais pas l'intention de la rejoindre tout de suite. Et puis, ce matin, j'ai eu du remords à cause de mon père qui est malade.
Vous partez quand?
Dans la matinée.
Si tôt?
Oui, j'aime pas les voyager la nuit.
Un domestique vient leur servir leur petit déjeuner.
En silence. Puis Edmond se lève
et dit « Venez Marie, nous allons faire une dernière promenade avec moi. » C'est-à-dire que j'ai mes valises à faire ? La mère lui dit
« Je vous aiderai, allez-y. »
Et ils partent. Alexandre les voit s'éloigner au milieu de la brume. Il la trouve très belle dans sa robe beige. Edmond lui a pris la main. La mère soupire et dit en les regardant
« Souhaitons qu'Edmond sache la garder et ne fasse pas de mauvaises manœuvres. » Elle est si charmante.
La voiture s'est arrêtée devant l'hôtel et voyant sortir Jules.
« Maman, papa !»
Elle se lève lui aussi et court à lui. Jules s'avance vers eux. Il les embrasse.
« Comment allez-vous ?»
Sa femme lui dit.
« Nous allons bien. Alexandre a été un peu fatigué, mais maintenant ça va bien. »
Jules a pris le bras de sa femme et ils vont s'asseoir sur la terrasse. Alexandre se met à côté de son père. Il est heureux de le revoir. Demi-heure plus tard, viennent vers eux Edmond et sa fiancée. La mère dit à Jules
« J'ai oublié de te dire, Marie est venue nous dire bonjour. »
Alexandre voit son père qui voit s'approcher Marie et lui par elle. Il en ressent une grande tristesse.
« Bonjour Marie, je suis heureux de vous revoir. »
« Moi aussi, monsieur. Bonjour père. »
« Bonjour Edmond. Eh bien, asseyons-nous. »
Marie lui dit gênée.
Malheureusement, je dois préparer ma valise.
Comment cela ?
Oui, je dois partir, je suis vraiment navré, mais mon père m'attend à Biarritz.
La mère se lève et dit.
Je vais vous aider, Marie. Vous nous quittez déjà, vous nous montrez votre grâce et vous nous abandonnez. Qu'allons-nous faire sans ces jolis yeux ?
Marie rougit. Edmond trouve son père stupide avec ses phrases de bonne pour des midinettes. Mais, en voyant Marie, il se dit, dépité, qu'il sait s'y prendre. La mère dit
« Venez, Marie !»
Elles entrent tous deux dans l'hôtel.
Alexandre se sent triste. Il aimait partir lui aussi. Oui, partir. Ou partir avec Marie. Il ne sait plus. C'est si confus. La brume s'est dissipée. Le ciel bleu.
le soleil dans tous ses états. Edmond s'est assis en face de son père, qui semble tout excité.
Elle en bénit Marie, elle est merveilleusement belle. Il faudra qu'on la voie un peu plus souvent.
Quelle taille qu'il a mise !
Et son si joli petit sourire.
Edmond rougit. Une demi-heure plus tard, les deux femmes reviennent. Marie en tenue de voyage, une valise à la main. Les hommes se lèvent. Bien voilà, je suis prête. Il ne reste plus qu'à vous dire au revoir.
Le père lui dit, « Vous permettez, je veux vous accompagner. Moi aussi, je dois vous quitter. Je suis venu qu'en passant. »
Sa femme le regarde stupéfaite.
Il continue.
Oui, les affaires.
Alors, nous partons ensemble.
Oui, je veux bien, mais je vais à Biarritz.
J'ai justement affaire dans cette région.
La femme lui dit.
Jules, Edmond.
Ah oui.
Il viendra avec nous à la gare.
Alexandre leur dit
« Moi aussi je veux aller à la gare. »
Sa mère le prend par la main et lui dit
« Non, reste avec moi. »
Alexandre boude. Marie sourit, se penche et lui donne un baiser sur le front.
« Je reviendrai, je te le promets. »
Puis elle embrasse Elisabeth. Jules embrasse Alexandre et sa femme. Qui reste de marbre.
Je reviendrai en fin de semaine.
La semaine se passe calme et monotone. Alexandre lit ou joue aux dames avec son frère. Sa mère est morose, un rien la met en colère. Son frère semble triste. Puis, le père revient. Dans la Alexandre est réveillé par ses parents qui se disputent dans leur chambre.
Pense à notre fils, tu devrais avoir honte.
Honte de quoi ?
Ne fais pas l'imbécile, tu n'as aucune moralité. Tu es ignoble, faire ça à ton propre fils.
Oh, arrête, je t'en prie. Ils sont pas mariés, que je sache.
Mais il l'aime.
Je lui montre mal.
Il n'est pas comme toi, il est sensible, lui. Et la respecte. C'est un véritable cauchemar. J'ai tout accepté de toi. Mais ça, non. Je te quitterai. Si tu continues.
Je t'interdis de me quitter, tu m'entends? J'aimerais mieux te savoir morte.
Lève tes mains. Tu m'étrangles.
Alexandre a eu très peur de cette scène. Le lendemain, il s'est réveillé tout excité et anxieux de se retrouver devant son père.
Thank you.
Radio Canet vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Rêve d'été, dont c'était la deuxième partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.